Ah, enfin, le retour de Micro Standard. Bonjour les chroniqueurs.
Bonjour.
Oh, il y a du monde aujourd'hui, vous êtes très très nombreux. Comment vous allez bien?
Ça va.
Super.
Vous êtes en pleine forme?
Oui.
Parce que cette semaine, enfin ce mois-ci en tout cas, il y a du dossier, on va parler des fans. Est-ce que vous êtes fan, vous?
Oui.
Fan en tout cas de cette émission de radio, ça c'est clair. Bonjour Didier.
Bonjour Michel.
Comment vas-tu?
Ça va.
Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
De Mylène Farmer.
De Mylène Farmer. Bonjour Mickaël, bonjour Jean-François. Vous, si je me souviens bien, vous allez vous balader avec un appareil photo ou vos appareils photo dans les rues de Brest. Vous passez en mode paparazzi.
Oui, c'est ça. Tout à fait, Michel.
Jean-Michel, comment vas-tu?
Ça va, je vais bien. Merci Michel, et toi?
Bah ça va très bien, tu vas nous parler de quoi?
De SLC, Salut les copains, et de la musique rock des années 70.
Et tu vas avoir un complice là-dessus, je crois que tu vas être avec ton copain Bernard.
Bonjour à tous.
On a des invités cette semaine, on reçoit, monsieur l'animateur de Radio Emeraude, Dominique, qui anime une émission de country depuis de nombreuses années. Ça fait combien de temps, Dominique?
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Sur Radio Emeraude, j'ai commencé en 83, donc tu vois, on peut compter.
Et fan de country depuis donc de nombreuses années.
Depuis le départ.
On va en parler avec toi tout à l'heure. Mmh. On va parler aussi avec Maria. Maria, tu es fan ou tu es ex-fan
de Madonna. Bonjour à tous.
Bonjour. Maria, on connaît un petit peu ta voix. Tu n'as pas déjà participé à cet atelier radio?
J'ai participé à quelques émissions pendant un an, non, peut-être plus que ça, 3 ans, 3-4 ans, moins 2 fois.
D'accord. Eh bien, bienvenue. Hervé, bonjour.
Oui, bonjour Michel.
N'hésitez pas à vous rapprocher des micros, à parler bien fort. Hervé, toi tu vas faire le malin avec qui aujourd'hui, dis-moi?
Oui, moi j'ai essayé d'amener la petite caution sociologique à l'émission là, en me plongeant dans les travaux d'un universitaire de la région pour essayer d'expliquer le phénomène des fans.
D'accord. Et Thierry, salut Thierry, comment ça va bien?
Bonjour, ça va? Oui, ça va moi aussi, oui.
Tu vas nous parler de quoi cette
semaine? Je vais vous parler de la traversée du désert des stars, avec les strass et les paillettes.
Eh ouais, c'est des choses qui arrivent, la traversée du désert. En tout cas, c'est pas la traversée du désert pour l'équipe de Micro Standard, et on va démarrer tout de suite.
Pour introduire notre sujet, Hervé a choisi de se plonger dans les travaux d'un spécialiste des musiques populaires.
Oui Didier, en effet, je me suis plongé dans les travaux d'un universitaire de la région, Philippe Le Guerne de l'université de Nantes, et j'ai essayé de mieux comprendre le phénomène des fans à travers ses travaux.
Alors Hervé, dis-moi, qu'est-ce qu'un fan?
Eh bien en fait Didier, un fan c'est d'abord quelqu'un qui se passionne pour des choses qui comptent pour lui. Bon, ça peut être pour un chanteur, pour un acteur, pour un type de musique ou pour un sport. On peut être fan de Patrick Bruel, de jazz, de kitesurf ou de l'Olympique de Marseille. Allez l'OM.
Que faut-il faire pour être considéré comme un fan?
Eh bien, en fait, le fan, c'est d'abord quelqu'un qui manifeste une admiration supérieure à celle du public ordinaire. Alors on peut mesurer l'admiration du fan par le temps ou par l'argent que le fan consacre à sa passion.
Donc si je comprends bien, ils font donc d'abord une très forte admiration.
Oui, en effet. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'admiration du fan a également des conséquences sur la vie personnelle du fan et sur ses relations avec les autres. Le fan, finalement, c'est quelqu'un qui pousse très très loin le rapprochement entre sa passion et son style de vie. Je ne sais pas si tu te rappelles, Didier, d'un groupe anglais au début des années 80 là, qui s'appelait The Cure.
Bah oui, j'ai quelques albums d'eux à la maison. C'était un groupe New Wave qui mélangeait musique psychédélique et rock gothique.
Oui, exactement, là, ce qu'on appelait le post-punk. Eh bien, les fans de ce groupe avaient adopté le style vestimentaire de leurs idoles. Ils portaient des plateformes shoes, des chaussures surélevées, des cheveux teints en noir et de longues vestes de cuir sombre.
Tout un programme. Et comment se comporte le fan dans ses relations avec les autres?
Mais en fait, la plupart du temps, le fan satisfait sa passion dans des réseaux communautaires. C'est dans ces réseaux communautaires que le fan se construit des relations sociales avec d'autres fans comme lui.
Comment les fans se rencontrent-ils?
Alors pour se rencontrer, les fans participent souvent à des conventions, c'est-à-dire à des rassemblements de fans qui souvent ont lieu en plein air. Alors c'est dans ces conventions que les fans rencontrent le plus souvent leurs idoles, bon, qui viennent là pour signer des autographes et également assurer la promotion de leurs produits. D'ailleurs, les fans viennent souvent dans ces conventions déguisés et habillés comme leur idole. Alors ces conventions sont très importantes pour les fans parce qu'elles renforcent le sentiment d'appartenir à une communauté.
Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre l'apparition des fans et le développement des industries du spectacle au XXe siècle ?
Ben en effet, Didier, hein, ce qu'il faut dire, c'est que tout au long du XXe siècle, une culture populaire commune s'est construite progressivement autour de la télé, du cinéma, de la radio et des disques. Et c'est grâce à cette culture populaire qu'ont émergé les vedettes et les stars.
Et quel rôle jouent les stars dans ce système ?
Eh bien, les industries du spectacle se sont servies des stars hein, pour façonner des imaginaires et des désirs communs partagés par de larges publics. En fait, les stars symbolisent la puissance des industries du spectacle qui ont réussi à imposer leurs vedettes au public.
Alors, dis-moi Hervé, est-ce que tu aurais des exemples de stars façonnées par ces industries du spectacle ?
Eh bien, je pense que l'exemple le plus parlant qu'on puisse prendre, c'est celui de John Crawford. C'est la première star fabriquée à 100% par Hollywood à la fin des années 20. Alors bon, de son vrai nom, John Crawford s'appelait en réalité Lucille Faye Lucifer. Elle était d'origine modeste, avec des parents séparés. Elle avait été successivement blanchisseuse, vendeuse, serveuse de restaurant, puis danseuse de revue. Bon, c'était une personne bien structurée, pleine de vitalité, qui avait tout pour susciter l'empathie du public. Une origine sociale peu favorisée, mais du dynamisme et des capacités à entreprendre. Tout ce qu'aiment bien les Américains, finalement.
Et tout ça remonte à quelle époque ?
En fait, ça remonte assez loin, puisque ça remonte à 1925, hein, ce qui ne nous rajeunit pas vraiment. Et à l'époque, à Hollywood, les spécialistes du marketing, parce qu'on faisait déjà du marketing à Hollywood au début des années 20, donc à l'époque, les spécialistes du marketing ont défini le produit qu'attend le grand public américain. La future idole doit être une américaine type, pas une étrangère comme l'exotique Greta Garbo, ni une aristocrate des classes supérieures comme Norma Shearer, autre actrice à la mode de la MGM à l'époque.
Dans le rêve américain, tout doit être possible. La bergère doit pouvoir épouser un prince et le berger devenir millionnaire.
Exactement, Didier. C'est pour ça que le nom Lucille Faye Lucifer ne convient pas vraiment. Et trop connoté français, trop aristo. Alors la MGM lance un concours pour essayer de trouver un autre nom. En septembre 1925, Madame Louise Artisdale de Rochester, dans l'État de New York, propose John Crawford. Bingo. Elle gagne le premier prix, un chèque de $500.
Lucifer le sueur devient donc John Crawford.
Oui, et une fois le nom trouvé, les esthéticiennes de la Metro-Goldwyn-Mayer peuvent se mettre au travail. Elles arquent les sourcils de Lucille, accentuent ses pommettes, humectent et rougissent ses lèvres. Des dentistes refont ses dents, des habilleuses cachent ses hanches et allongent sa taille. Puis le costumier Adrian, tailleur des stars, entre en scène et crée le look Crawford. Un style à la fois glamour et populaire, sexy sans être trop provocant.
J'imagine, Hervé, qu'à l'époque, les ligues féminines de vertu n'auraient pas toléré une star trop sexy.
Non, exactement, Didier. Hein. Le genre Sharon Stone dans Basic Instinct, c'était pas vraiment envisageable à l'époque.
Je crois me souvenir, Hervé, d'un vieux film avec John Crawford, L'Insoumise ou quelque chose de ce genre.
Exactement, ça a été le premier film de John Crawford en tant qu'actrice principale en 1929. Et la publicité pour ce film décrivait John Crawford comme une petite fleur de la jungle qui devient plus sauvage chaque minute. Après ça, la nouvelle star d'Hollywood est lancée. John Crawford sera l'une des actrices américaines à la carrière la plus longue. Pendant plus de 40 ans, elle connaîtra toutes les époques des grands studios américains, depuis le cinéma muet jusqu'aux années 60.
Et comment le public américain a-t-il réagi au lancement de cette nouvelle star ?
Eh bien, auprès du public, le lancement de John Crawford est un succès complet. Les jeunes filles imitent sa démarche, sa voix, son maquillage, portent les mêmes vêtements. En plus, la nouvelle star s'est entichée de Douglas Fairbanks Jr., le fils de la star Douglas Fairbanks, qui avait été l'interprète de Robin des Bois notamment et de Zorro. Une immense star à l'époque. Alors John Crawford l'épouse en 1929 dans un mariage réglé comme une superproduction par Louis B. Mayer, président de la MGM. Meyer a choisi la table, le menu, le gâteau et organisé la venue des flashs des photographes.
En résumé, Hervé, pour comprendre le phénomène des fans, il faut s'intéresser au développement des industries du spectacle et du star system.
Exactement. Comme le dit Philippe Le Guern, l'universitaire dans lequel j'ai puisé toutes mes références, étudier les fans nous montre comment la culture influence les individus et comment les individus influencent la culture.
Eh bien, bravo, messieurs, je crois que ça peut s'applaudir. Vous êtes vachement Crawford.
Bravo.
Bon, ben voilà, on en sait un petit peu plus maintenant sur qui sont ces fans. Vous êtes, certains d'entre vous, promenés il y a quelque temps dans les rues de Brest. C'était la semaine où il y avait le festival Longueur d'onde à Brest. Et je crois que vous avez réalisé un micro-trottoir sur les fans. Et justement, je vous propose d'écouter le résultat de ce micro-trottoir.
Pour vous, c'est quoi être fan ?
C'est ne jamais louper un concert, ne jamais, pour un groupe de musique par exemple, acheter tout ce qui sort et puis connaître toute la vie de la personne.
Donc vous-même, vous êtes fan ?
J'ai été, maintenant moins, parce qu'à mon âge, on passe moins de temps à suivre les gens, mais quand j'étais jeune, sûrement, oui. Donc ça allait de Thiéphane, Gainsbourg, Renaud.
Elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joie.
Tu fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous.
Et jusqu'où ça pouvait aller ?
Bon, pas très loin quand même, parce que j'ai pas beaucoup de moyens, donc ça s'arrêtait vraiment à la musique, enfin le concert, avoir les disques. Quand on pouvait.
Je pense qu'être fan, c'est être très intéressé par la musique ou par l'œuvre d'un artiste. Moi, je suis fan de plein d'artistes. Ouais. Beaucoup de musique ou des petits groupes. Mais c'est vrai que je suis beaucoup les concerts qui vont passer. Donc, je vais faire beaucoup de concerts et je vais essayer de suivre et de les voir en concert. Ouais. Par contre, j'ai des limites. Si c'est dans la région, si c'est peut-être aller à Paris ou faire des choses, ça peut être bien. Je ne vais pas traverser la France ou je ne vais pas aller dans un autre pays, mais je peux me déplacer et faire d'un effort. Mais...
Si j'existe, c'est d'être fan. Si j'existe, ma vie, c'est d'être fan. D'être fan, sans répit, jour et nuit. Mais qui peut dire je t'aime, donc je suis.
Moi j'étais assez fan de Johnny.
Que je t'aime.
Fan de Johnny Depp, mais depuis qu'il a tapé sur sa femme, je suis moins fan.
C'est ça ? Le Black Pearl ?
Il est pas très grand.
Ma poule, ça c'est un canot. Oh. Mon vaisseau est magnifique et féroce et énorme et ailleurs.
Ben, il était venu en vacances avec Vanessa Paradis à Pouldreuzic et on s'était quand même tâté sérieusement à aller faire un tour dans Pouldreuzic pour trouver la maison qu'ils avaient louée, mais on n'avait pas osé aller. Donc, je vais pas très loin finalement pour mes idoles.
Êtes-vous fan de quelqu'un ou de quelque chose ?
Non. Vous avez pas de bol ? Ben non, désolé.
On a la chance d'accueillir des invités, on a la chance d'accueillir Dominique qui est animateur sur Radio Emeraude et fan de musique country depuis très longtemps, on a la chance d'accueillir Maria, ex-fan de Madonna, merci d'être là, en tout cas ça peut s'applaudir, on est très content de vous accueillir.
Merci. Bonjour à vous. Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Ave Maria.
Dominique,
oui.
On le disait lors de l'intro de cette émission, 30 ans déjà d'animation radio, que sur Radio Emeraude ?
Non, j'ai fait plusieurs radios. J'ai commencé à Radio Emeraude en 83. Ensuite, j'étais sur d'autres radios, une qui avait à Landerneau qui s'appelait Radio Rohan. Après, j'étais à l'Esnevin sur RBL. Après une petite coupure de 3-4 ans où j'étais à Paris pour le travail, quand je suis revenu, j'étais sur RCF.
D'accord.
C'est à Privage, et puis là, ça fait 5 ans, je suis revenu à Radio Emeraude.
Bon, fan de musique country depuis combien de temps, dis-moi?
Ah ben, je suis tombé, disons que la country, pour moi, c'est arrivé grâce, je pense que je fais partie d'une génération, on a connu les années 60, où là, c'était d'abord le rock'n'roll, donc les groupes français, on a entendu Johnny tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils reprenaient les artistes américains. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais chercher les originaux. Et qu'est-ce que je tombe sur Elvis Presley, qui reprend par exemple du Bill Monroe, qui est du bluegrass, Johnny Cash ou Hank Williams, même Bill Haley a fait de la country, donc je suis tombé dedans, voilà, et je continue d'écouter cette musique-là. C'est un morceau qui n'est pas très connu par rapport à ceux qui aiment Johnny Cash, parce que là, c'est en duo avec Hank Williams Jr., le fils du grand Hank Williams. As they sow, they will reap. Turn the other cheek and don't give in. That old wheel will roll around again. Yes, sir, when love is gone. And the one you thought would...
À cette émission que tu animes, dis-moi, elle s'appelle comment?
La country en Côte des Légendes.
Ah, complètement. Voilà. Elle est située où, la radio, déjà?
Donc, au Folgoat. Pour ceux qui connaissent, là où il y avait l'ancien Leclerc.
C'est la première fois qu'on accueille dans l'émission un autre animateur radio que moi, que vous. Ça fait totalement, totalement plaisir. Pour les gens qui sont fans de country, c'est quoi? On sait qu'il y a pas mal de clubs de danse. Est-ce que toi, tu es un petit peu en lien avec ces clubs de danse? Est-ce que tu reçois, par exemple, aussi des invités dans ton émission?
Eh bien, disons que c'est vrai, quand j'ai commencé les émissions en 83, les gens ils connaissaient pas trop la country, donc ça c'est j'ai essayé de faire développer cette musique, et il y a eu des clubs de danse qui se sont montés après. Même moi, j'étais quand même avec mon épouse, on avait monté une association de danse et musique. Moi, j'y tenais beaucoup que le mot musique soit dedans, parce que faire des danses country, mais il faut déjà essayer de connaître la musique.
Tout à fait.
Donc, j'ai fait ça pendant une bonne, une douzaine d'années. L'association continue, mais j'ai arrêté. Je préfère continuer la radio. Je ne veux pas dire que c'est plus intéressant, mais ça me fatigue moins. Et surtout, je reçois quand il y a des groupes qui passent dans la région, s'ils peuvent passer à la radio, je reçois avec plaisir.
Bon, qui dit, pour certains qui n'aiment pas la musique country, qui dit musique country, dit cliché ou pas d'ailleurs, chapeau de cow-boy, bottes de cow-boy, c'est souvent le cas pour les clubs de danse, ça fait partie du look country. Toi derrière le micro, tu as le chapeau, tu as les bottes ou pas?
Non, je suis habillé comme tu me vois là. C'est vrai que dans les balles, les gens ils s'habillent un petit peu, c'est ça d'être fan, comme il l'a expliqué tout à l'heure. Donc même moi, c'est vrai que j'ai le chapeau, j'ai tout ça, mais...
Mais pas à la radio parce que ça ne se voit pas.
Déjà ça se voit pas, mais je pense que celui qui aime vraiment la country, il est quand même naturel. On n'essaye pas d'être superficiel, quoi. Pour moi, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur.
Ah, t'as quand même presque la chemise de bûcheron canadien ou du Nord-Ouest.
Ça c'est une chemise qu'on peut porter tous les jours, quoi. C'est ça.
Bonjour Dominique, je voulais te poser, parce que moi mes références, c'est aussi la radio, mais la radio la nuit, la musique country américaine avec le célèbre George Lang qui finit sa carrière de nuit sur RTL. Quelles sont tes références par rapport à cette émission qui s'appelle WW Country?
Je l'ai écouté à un moment, mais quand c'était pas à minuit, c'était entre 10h et minuit, parce que maintenant, quand il est passé à minuit, la nuit,
Les chats sont gris.
Les chats sont gris. C'est vrai, quand je suis en voiture, la nuit, quand je rentre de spectacle, ça m'arrive de l'écouter, mais c'est dommage que c'est trop tard. C'est vrai qu'il m'a fait découvrir pas mal de choses, mais c'est une époque aussi, j'allais régulièrement à Paris, et j'avais quand même une très très bonne amie qui travaillait à la FNAC, au Forum des Halles, qui, elle, arrivait à avoir plein de disques.
Mais la programmation de Georges Lang, parce qu'il l'a fait pendant près de 40 ans, est quand même différente de la tienne sur Radio Émeraude.
Oui, tout à fait, parce que je ne veux pas imiter Georges Lang. Je préfère passer les choses que moi, que j'aime. Lui, il aime une certaine forme de musique country. Moi, je préfère country, mais je passe aussi beaucoup de bluegrass que lui ne passe pas.
Merci pour mes nuits blanches.
Alors, ce petit morceau-là, par exemple, est-ce que tu le connais? Blind test, Bernard, non. Ah non, ça te parle pas. Hein. Dominique, c'est quoi ça? C'est Trio, c'est ça?
Voilà, c'est Trio. Bon, ben, je sais qu'il y a une personne qui m'a parlé d'Emilou Harris. Et puis ben, là, j'ai préféré mettre les trois plus grandes chanteuses en même temps. Ils ont fait un album ensemble, c'est-à-dire Emilou Harris, Dolly Parton et Linda Ronstadt. Donc, avec, ils ont sorti trois albums. Et là, c'est tiré du premier album qui s'appelle Wild Flowers.
Hervé, tu connais? Tu en parlais à l'instant?
Oui, tout à fait. Moi, j'allais dire June Carter, parce que j'aimais bien June Carter aussi. J'aurais pas cité Linda Ronstadt, mais j'aurais cité Emilou Harris aussi, Dolly Parton. Ouais.
Ben, c'est bien aussi, June Carter, oui, avec Johnny Cash.
Ouais.
Est-ce que l'un de vous a une question pour Dominique concernant les fans de musique country et son amour, entre autres, pour la musique country?
Juste, je me dis qu'en fait, il faut trouver une moitié qui partage la même passion si on veut faire un bout de chemin.
Disons que, disons que mon épouse, elle est très musique folk, donc celtique et tout ça. Bon, la country, c'est la country et la bluegrass, c'est quoi? C'est la musique folk américaine. Hein. Donc ça va. Bon, elle aime bien les belles voix. Bon, elle a des choses qu'elle aime pas en country. Et, bon, c'est pas grave. Moi, il y a des choses en celtique que j'aime moins. Donc on arrive quand même à se... Ça va, pas de problème.
On parlait tout à l'heure... Pardon.
Non, juste pour savoir, ça vous a emmené loin, tout ça?
Comment
vous avez
ça
voyagé
Pas beaucoup, non. Non, je vais dans les concerts. Bon, si, ça m'est arrivé d'aller à l'étranger, mais bon, là, à l'époque, c'était pour le boulot, donc j'ai pas trop été, mais c'est vrai que, bon, j'ai pas été aux États-Unis, si c'est ça que tu veux savoir. Ouais. Non, s'il y a un pays où... c'est vrai, j'aimerais faire un tour, mais le plus, je crois que c'est en Australie. Parce que là-bas aussi, la country est très importante.
30 ans que tu as commencé ton émission de radio, que tu es fan de country, est-ce que ça veut dire que chez toi, tu as des vinyles?
Tout à fait, je les garde.
Donc, des collecteurs, très certainement?
Oh, sûrement, je dois en avoir que des collecteurs. Hein. Ça, je ne peux pas trop dire, parce que bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui disent j'ai le collecteur de ci, le collecteur de ça. Bon, j'en ai aussi, mais...
C'est être fan, ça, quelque part, avoir des disques collecteurs de la musique qu'on aime.
Mais je ne cherche pas à avoir tous les disques, parce que un fan...
La cave est trop petite.
Il y a peut-être ça, mais surtout...
T'en as combien, là, à peu près, Dominique?
J'y compte plus.
D'accord, ok. Donc la cave est remplie. Ou c'est peut-être pas la cave, c'est peut-être le grenier, d'ailleurs.
C'est une pièce. Une pièce.
Jean-Michel, je crois que tu avais une question.
C'est une grande pièce chez Dominique.
Ah, tu connais sa pièce?
Oui.
C'est vrai que vous êtes potes tous les deux.
Oui, oui,
c'est par ton biais, d'ailleurs, Jean-Michel, que Dominique est là aujourd'hui. Ah. Merci de nous l'avoir proposé comme invité. Des petites questions encore pour Dominique concernant sa passion pour la musique country. Et tiens, Dominique, avant la dernière question, c'est quoi ce petit groupe-là, dis-moi?
Ça, c'est un morceau live.
C'est un morceau live.
Ça arrive. Enfin, enregistre en studio façon live.
Ah, un petit peu comme nous.
Voilà.
Alors, c'est qui?
Bon, alors ça, c'est un album qu'il faut avoir pour ceux qui aiment la country. C'est un triple album qui était sorti en 89, qui s'appelle With the Circle Beyond Broken. Et c'était Nitty Gritty Dirt Band qui avait organisé ça. Il avait invité plein de monde. Et sur le morceau qu'on entend, il y a Johnny Cash, Roy Acuff, Ricky Skaggs, Lemon Helm, Emilou Harris et plein d'autres.
Ah, ça part fort, hein?
Après, oui.
Et morceau à découvrir, hein. On vous le met pas en entier. Je crois que Thierry, t'avais une question.
Oui, une question d'ordre général. Je me suis toujours demandé comment s'appelle, vous savez, à l'emplacement du nœud papillon en country, il y a souvent des petits fils avec du métal.
La cravate américaine,
ça s'appelle comment exactement?
J'ai plus le nom en tête, c'est. J'ai ça aussi. Je préfère. Non, c'est plus facile à mettre qu'une cravate. Donc,
le nœud est plus simple.
Hein,
le nœud est plus simple,
parce qu'il est déjà fait. Je ne sais même plus le nom. Tiens.
C'est pas une cravate américaine, tout simplement? Ou c'est à la française qu'on l'appelle comme ça? Ça a certainement un autre nom.
Ouais, c'est un autre nom. Ça reviendra peut-être tout à l'heure. C'est vrai que là, c'est une question piège. Parce que
on aime bien comme ça.
Voilà.
Eh ben, merci, Dominique, en tout cas, de ta présence. Et je crois que vous pouvez l'applaudir, Dominique.
Merci.
Merci. Merci.
On peut te retrouver quand sur Radio Émeraude?
Eh bien, mon émission, c'est tous les vendredis soirs, 20h, 22h, sur le 95.9 ou sur radio-émeraude.net.
Eh bien, voilà. Merci et encore bravo. Bon, après la country, et avant de retrouver Maria tout à l'heure qui va nous parler de Madonna, Didier, toi, c'est pas Madonna, mais c'est aussi une femme. Je crois que tu es fan, depuis combien de temps ? On va le savoir dans quelques instants, mais grand fan de Mylène Farmer. Dis-moi tout, dis-nous tout, s'il te plaît.
Donc, adolescent, solitaire et écorché, quand je découvre Mylène Farmer dans l'émission « C'est encore mieux l'après-midi » présentée par Christophe Dechavanne, c'est le choc. À l'époque, elle chante timidement « Maman a tort ». Le personnage m'intrigue car décalé de ce qu'on écoutait à l'époque. Mylène Farmer a réussi à percer dans le monde de la musique en cultivant un certain goût pour la provocation. Mais c'est sa part de mystère qui a fait d'elle l'une des artistes les plus demandées en France. Il faut savoir que c'est la chanteuse française qui a vendu le plus d'albums. Femme sulfureuse ou femme enfant, cette grande perfectionniste a su construire sa carrière loin des sentiers battus du show business. Tout cela me plaît chez elle, moins son premier album « Cendre de lune ». En 1991, l'album « L'autre » rencontre un large public avec le tube « Désenchanté » qui deviendra le single le plus vendu. Alors, c'est le début du mystère qui me fait attendre avec impatience la sortie de ces clips, qui sont de véritables petits films réalisés par Laurent Boutonnat. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces films, ces clips, c'est réalisé comme des films, et c'est rare, ils sont rares, c'est-à-dire ils sont attendus par les fans pendant au moins 2, 3, voire 4 ans. Donc c'est ça qui crée l'engouement, le succès, la fanatitude et tout ce qu'il y a autour de Mylène Farmer. Quoi. Elle devient sa muse, c'est pourquoi son personnage attire un public gay, donc elle est une véritable icône. Ses concerts sont des shows à l'américaine, dont je m'arrache les DVD qui sont pour moi un univers qui permet de m'évader. Enfin, apparaissant rarement dans les médias et refusant de communiquer sur sa vie privée, elle a construit avec Laurent Boutonnat un univers musical singulier, notamment à travers ses clips et ses concerts spectaculaires, ainsi qu'à travers ses textes emplis de double sens, d'allitération et de références littéraires et artistiques. C'est cet artiste singulier qui me donne goût à la poésie.
Ça te rappelle quelque chose, Bernard ?
Salut Jean-Michel !
Salut Bernard !
Salut les copains !
Bonjour à tous !
Bonjour ! À l'époque, on disait salut, hein.
Salut les copains, ouais.
Alors, on est...
Était-ce le jingle de l'émission ?
Oui, c'était l'indicatif, ouais. Il y avait beaucoup de jingles. Alors, là, si on fait l'historique un peu, Jean-Michel,
oui.
Avec l'aide de nos grands frères et toi, de tes cousins, l'émission Salut les copains, en fait, a démarré en 1959, mais elle ne durait qu'une demi-heure.
Oui.
Hein, par une certaine Suzy qui avait été embauchée par Daniel Philippe Aki et Franck Thénault, et son chant. Alors, c'était de la musique des premiers yéyés, comme Johnny. Johnny qui avait apparu à la télévision en 1959. Sa marraine était Lynn Renault, et donc il avait déjà un certain succès.
Ah, en effet.
Et donc des standards américains, Elvis, t'en connais peut-être d'autres.
Quelle musique diffusait-il ?
Bon, bah, ce qu'on allait appeler plus tard du yéyé, quoi. Et très vite, l'émission d'une demi-heure le dimanche, puis le jeudi. Et entre 1960 et 1962, elle deviendra quotidienne et durera
deux heures. De 17 à 19h
le
soir.
5 à 7. Moi, personnellement, je rentrais de la maison le plus tôt possible de l'école primaire, parce que l'école finissait à 17h. Et je rentrais le plus vite possible à la maison pour allumer la TSF familiale.
Pour être à l'écoute.
Pour être à l'écoute, ouais. Des idoles. Et
alors,
puis...
quel type d'idole ?
J'écoutais tout. Il y avait... Alors, ce qui m'a fait tomber amoureux de la radio, c'est qu'on annonçait le flash de 17h avec le célèbre Carillon qui dure toujours. Le flash présenté par André Arnault et le passage de voix, le passage d'antenne à Daniel Philippe Aki.
Il y a eu une création en 1964 d'un magazine.
D'un magazine féminin, oui, Mademoiselle La Chambre.
Oui.
Mais déjà avant 1962, ils vont sortir la formule magazine de Salut les copains.
SLC.
SLC. Donc il y aura un gros succès parce que le premier numéro va sortir à 1 million d'exemplaires. Il touche les ados, les enfants, que l'enfant que j'étais, auquel je suis devenu fidèle. Ouais. L'émission aura plein succès à travers l'émission de radio. Aussi, une émission populaire qui va réunir en 1963 le concert de la Place des Nations.
Johnny Hallyday ?
Oh oui, Johnny, Richard Anthony, Sylvie, mais Johnny surtout. Johnny va être la vedette, la vitrine de Salut les copains. Et en 63, bon, les intellectuels vont se retourner contre ce genre de manifestation.
Ils ont quelque peur d'ailleurs, au niveau de l'organisation.
Les forces de l'ordre ne sont pas tranquilles et tout ça. Alors ils attendaient quelques dizaines de milliers, ils étaient 300 000 quand même.
300 000
Oui, oui, oui. Et c'est là qu'Edgar Morin, le sociologue, parlera d'égayer, un terme qui sera retenu. Parce que tout simplement, bon nombre de chansons des chanteurs yéyés, comme Franck Alimbaud, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Sheila, Eddie Mitchell, Dick Rivers, leurs chansons se finissaient souvent par le terme yéyé. Et donc, l'émission aura ses heures de gloire, 65, 66, ce sera l'apogée des yéyés. Ils prendront beaucoup de disques parce que, tout simplement, ils vont reprendre des standards américains et les reprendre en français, donc les 45 tours.
Quel standard américain, tu t'en rappelles ?
Les chansons, et j'entends siffler le train et que sais-je. Peut-être tu en connais, toi, Jean-Michel ?
Moi, ça me rappelle une chanson, The House of the Rising Sun, chantée par les Animals. C'était les portes du pénitencier, tout simplement.
Voilà, c'était tout simplement ça. Il y en a eu des milliers. Il faut savoir que Johnny Hallyday n'a pas écrit une seule chanson. Donc, il reprenait beaucoup de standards américains avant d'avoir ses propres parodies. Alors, l'émission sera présentée pas seulement par Daniel Filibaki et Franck Thénau. D'autres vont s'y frotter. D'ailleurs, Claude François va animer l'émission. Le chanteur Jacques Monti, qu'on appelait Monti aussi. Et puis, personnellement, je ne sais pas si j'étais... Il y avait un collaborateur de Salut les copains qui s'appelait Michel Brier dans son état civil. Il est rentré très jeune à la station. Et puis, il ne voulait pas qu'on l'appelle Michel Brier à l'antenne. Alors, il s'est appelé Bernard. Un nom à la mode dans les années 60. Donc, j'avais mon prénom qui est comme ça... Ouais, dans l'émission.
Peut-on parler d'un déclin des émissions et du magazine Salut les copains ?
Du magazine, non, parce qu'ils vont même continuer à faire le mensuel et faire un hebdomadaire fin des années 60, début des années 70, toujours dirigé vers les ados. Par contre, l'émission, oui. D'ailleurs, tu peux nous rappeler, Jean-Michel, l'année 1967 aux États-Unis qui va...
65, je dirais d'abord, c'est l'explosion du rock avec les Rolling Stones et Satisfaction. Mais moi, je me rappelle dans mes souvenirs, du plus longtemps qu'ils m'en souviennent, mon cousin, en 66, Pierre, qui débarque à la maison, affublé d'une chemise à fleurs, et m'empruntant ma petite guitare, qui l'accorde et qui va me chanter les élucubrations d'Antoine en direct. Et pour moi, c'est un grand souvenir musical.
Salut les copains va avoir son apogée dans les années 62-63, jusqu'en 1967, où Jean-Michel, aux États-Unis, il y a un certain mouvement qui va naître.
Le mouvement hippie, le Flower Power, en fait. Et donc... dans les années 68 à 69, c'est l'éclosion, c'est le mouvement hippie, en fait.
Et l'émission de Salut des copains
va décliner quelque peu.
Décliner, deviendront désuets. Franck Alimbaud va arrêter sa carrière à la demande de son épouse et va vendre des voitures. Et puis le succès... Bah, le succès des Guillets est dépassé parce que tu dis, Jean-Michel, le flower power, les hippies. Et donc, la direction d'Europe 1, Lucien Boris, dit à Daniel Filibaki et Franck Pénaud, on arrête. On arrête.
Maria, ex-fan de Madonna, c'est quoi le titre de ce morceau ?
Into the Groove.
Into the Groove, c'est l'un des morceaux de Madonna. Merci Maria d'être là avec nous dans Micro Standard.
Merci.
Ex-fan de Madonna, plus du tout maintenant ?
Si, j'ai été la voir en concert il y a, quand il y a eu les attentats de novembre. Là.
D'accord.
Et moyen, enfin j'ai trouvé ça moyen en fait.
Donc toujours un petit peu fan quand même ?
Ouais, je suis l'actualité.
Tu suis l'actualité. Ça a démarré comment cette...
Par cette chanson, en fait, sur une cassette en 85. J'avais pas de physique. Enfin, j'ai écouté, en fait, c'était un son, en fait,
d'accord,
au départ. Et j'ai adoré, quoi.
T'as adoré, t'as accroché.
Ouais.
La cassette, c'était quoi ? C'était à la maison ?
C'était
dans la
voiture ? Non, c'était une cassette qu'on avait dans les... quand on prenait de l'essence, en fait. Une cassette avec les hits de l'été, quoi.
Ah !
Et donc, sans pochette,
oui, effectivement, je me rappelle de ces cassettes qui étaient offertes dans les stations, dans les stations-service et donc qui tournaient soit après dans la voiture, soit à la maison.
Voilà, c'est ça. Ouais.
C'était le premier titre, il y a eu quoi après ? La grande question, c'est... Donc tu me disais, tu ne connaissais pas d'abord physiquement
non,
Madonna.
Que la voix, en fait.
À quel moment tu l'as découverte physiquement ?
Après, c'est ma mère qui m'a fait découvrir l'album True Blue en 86, avec la Isla Bonita. C'est comme ça que j'ai vraiment démarré, en fait.
Il me semble qu'il y avait eu un film aussi en 1985 où elle avait un petit rôle, Recherche Suzanne désespérément.
Justement, Into the Groove, c'est un extrait du film.
Très bon film d'ailleurs.
Mais elle a commencé avec Holidays.
Il y a eu Everybody avant aussi. Enfin, il y a eu pas mal de trucs avant parce qu'elle a joué dans des groupes avant de commencer toute seule en fait.
Bon, très rapidement, tu es donc tombé fan de Madonna.
Ouais.
Ça s'est traduit comment ? Dès qu'il y a eu des albums, tu as commencé à acheter des albums.
Ouais, mais trop, parce qu'après c'était les t-shirts, les posters. Hein. Ça faisait beaucoup de dépenses pour ma mère en fait, et voilà. Donc après, c'est excessif.
Et est-ce que si je vous parle de Podium, ça vous parle ?
Ouais.
Ce fameux magazine avec la grande affiche centrale en plein milieu du magazine. T'avais ce genre de magazine-là ? Tu achetais ce genre de magazine ?
À l'époque, c'était Top 50, OK Magazine, je crois.
Peut-être, oui.
Et
Podium. Podium est une création de Claude François.
Et Salut aussi, je crois, non ?
C'est possible, ouais.
Ouais, je sais plus trop.
Salut.
Chacun sa génération, hein. Moi, j'ai été élevé au Podium, comme au Nesquik d'ailleurs.
Et j'ai acheté les magazines en doux pour avoir les deux recto verso des posters. Enfin.
Là, on voit vraiment ton côté, ton côté fan.
Ouais.
Concert de Madonna, ton premier concert de Madonna, c'était où et quand ?
Le premier concert, c'était en 2009, c'était le Sticky and Sweet Tour à Bercy.
Et alors ?
Super, bon.
Les sensations, ça donnait quoi ?
De voir son idole, je crois que j'allais m'évanouir déjà, mais bon.
Donc c'était bien fort en toi.
Ouais, c'était encore fort, ouais.
Est-ce que tu as bravé toute la foule pour être dans la fosse au premier rang pour assister à ce concert ?
Pas à ce concert-là, j'étais dans les places numérotées en hauteur. J'étais un peu frustrée là par contre.
D'accord,
Mais c'était super, rien à dire.
Il y a eu d'autres concerts où tu as réussi à te faufiler devant ?
Pour le dernier que j'ai fait il y a 3 ans, là, à Bercy, pareil aussi. Mais là, j'étais dans la fosse, mais non, il n'y avait plus rien. Enfin, ça marchait plus.
Ça marchait plus ?
Non.
C'est quoi ? C'est elle ? C'est Madonna ? Ou c'est toi ?
C'est son âge aussi, je pense.
Oui, comme on disait tout à l'heure.
Tout le monde vieillit.
Elle était venue avec son déambulateur.
Tout le temps avec la chirurgie esthétique.
Non, mais en fait, je pense que dans sa tête, elle va avoir 60 ans cette année... Elle fait toujours autant physiquement, elle continue à danser autant que quand elle avait 30 ans et tout, et ça passe plus parce que, je sais pas, il y a un décalage entre les danseurs et elle, en fait.
Décalage peut-être pour Madonna, décalage peut-être aussi pour toi ?
Peut-être aussi, ouais, les deux, certainement les deux, ouais.
Est-ce que tu as toutes tes reliques de Madonna ?
Et non, j'ai rien gardé.
Tu n'as rien gardé ?
Non, rien gardé du tout.
Et pourquoi avoir choisi de se séparer de tout ?
Parce qu'à un moment donné, c'est la passion, ça se retourne contre soi, en fait.
D'accord.
Parce qu'après, je sais pas, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé parce que je dépensais tout pour acheter... Les maxi CD, enfin tout quoi.
Ouais.
Donc à un moment donné, c'est la santé qui est en jeu en fait. Je sais pas comment dire ça. On préfère acheter des CD, les collecteurs, tout ça, plutôt que de manger, on va dire.
D'accord.
Par exemple.
Une addiction quoi.
Oui, une addiction. Donc après, ça s'est retourné contre moi et j'ai revu la vie d'une autre façon en fait.
Et tu t'es séparé comment de toutes ces reliques ? T'as jeté tout d'un coup?
Moi, j'ai tout jeté parce que c'était insupportable.
Waouh!
Ouais, je crois que c'est ça. Ouais.
T'as pas fait de cadeau?
Ben, personne ne m'a donné autour de moi. Donc...
Il y a des fans de Madonna autour de cette table qui a écouté Madonna? Ou quel morceau de Madonna vous a marqué?
Madonna m'a fait danser dans les années 80 et 90 dans les boîtes de nuit, club. Ah, oui, oui.
Thierry?
Moi, c'est La Isla Bonita que je préfère.
La Isla Bonita. Ouais. Les autres, de quel titre vous vous souvenez? Jean-Michel, est-ce que tu te souviens pardon, des titres de Madonna?
Oh, La Isla Bonita, ouais, tout à fait. Ouais.
Bon, Maria, est-ce que tu peux nous rappeler les principaux titres, les principaux gros succès de Madonna?
Moi, je dirais La Isla Bonita, bien sûr.
Ouais.
Like a Prayer.
Ouais.
Après, je pense qu'il y a eu Vogue aussi, ça a été un bon retour. Mm-hmm. Après, je pense que c'est l'album Ray of Light, quand elle a eu sa fille est née, en fait. Mm-hmm. Et après, moi, mon préféré, moi, c'est Hard Candy, en fait.
D'accord.
Mais après, c'est différent, parce que il y a un côté un peu... elle a commencé à travailler avec des producteurs américains, Kanye West.
Tu suis toujours aujourd'hui son actualité de près, de loin?
Non, de très loin.
De très loin?
Ouais, ouais.
Alors, son actualité, justement, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des infos?
Non.
Non. Donc, on n'est pas prêt, pour l'instant, peut-être pas prêt de revoir Madonna sur scène?
Moi, j'ai pensé que comme elle avait 60 ans, il y aurait peut-être une tournée ou quelque chose, mais apparemment, non. Donc,
Elle est, tu crois, proche de la traversée du désert, Madonna, ou pas?
Jamais.
Non, elle n'y arrivera pas, elle ne fera pas
jamais.
Traversée du désert.
Non,
elle sera là jusqu'au bout.
Oui, parce que justement, ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle a une discipline de vie. Enfin, elle a un côté presque sacerdoce en elle, qui fait que non, elle sera tout le temps là, je pense.
Eh bien, merci Maria. Merci beaucoup.
Merci pour ton retour, Maria.
Hé, hey, tu es bien à l'écoute de Micro Standard sur Radio Nord-Bretagne.
Thierry, on parlait justement de traversée du désert. Madonna, a priori, ça n'est pas pour tout de suite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la traversée du désert de nos artistes préférés?
Ah, ces people, ils connaissent le strass et les paillettes, mais malheureusement, certains d'entre eux connaissent aussi le creux de la vague. Les acteurs, les chanteurs, les hommes politiques, tous ne sont pas à l'abri d'un flop. Tout d'abord, un acteur que tout le monde connaît, John Travolta, qui avait atteint des sommets de la notoriété avec des films comme La fièvre du samedi soir en 1977 ou Grise en 1978. Ce dernier était devenu un peu ringard et désuet pendant les années 80. Il revient sur le devant de la scène en 94 avec le film Pulp Fiction de Quentin Tarantino, qui d'ailleurs obtiendra la Palme d'Or à Cannes. Dès lors, une nouvelle carrière s'ouvre devant lui. Côté musique, le chanteur Renaud, qui a connu un franc succès grâce à des albums Morgane de Toi, Mistral Gagnant et Putain de Camion, va connaître une période moins prolifique pendant les années 90, due entre autres à son état de santé et tout ça, je suppose. Après une absence de 6 ans, le chanteur revient avec le succès en 2002 de son album Boucan d'Enfer. Le titre s'appelle Manhattan Kaboul, chanté avec Axel Red, et ça lui vaudra la victoire de la musique comme meilleure chanson. Concernant les stars des années 80, les producteurs musicaux vont avoir des éclairs de génie en début des années 2000. Ils projettent de rassembler plusieurs stars des 80s et leur demandent de chanter leurs chansons phares des années 80 lors d'un show. Le show s'appellera Star 80. Les stars présentes dans ce spectacle vont de Jeanne Masse à Jean-Luc Lahaye en passant par Cookie Gingler. Le succès est immédiat, tel qu'il il prévoit d'occuper le Stade de France à la fin de la tournée. Mais Star 80, c'est aussi un film qui raconte la vie et les coulisses de ces stars des 80s. C'est de nouveau un succès, car le film obtient presque 2 millions de spectateurs dans les salles obscures. Pour conclure, la notoriété des stars et du showbiz est souvent éphémère. Certaines personnalités en jouent pour mieux faire leur comeback. D'autres finissent aux oubliettes, soit par manque d'inspiration, soit par profit du système. Mais ne dit-on pas, après la pluie vient le beau temps.
Eh bien, j'espère qu'il va rester le beau temps, en tout cas qu'il va arriver aussi chez nous. Merci Thierry.
Merci Thierry.
Et évitons la traversée du désert, bien évidemment. Moi, j'en connais deux qui sont loin, en tout cas, de la traversée du désert. C'est Papa et Radzi, Michael et Jean-François. Qui est Papa, qui est Radzi, d'ailleurs?
Moi, je suis Papa.
Jean-François?
C'est nouveau, hein. Il vient d'être Papa.
Il est Papa.
Enfoiré.
Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous deux, là ? Vous êtes partis, vous baladez du côté de Brest. Je pense que vous avez fait encore un « Vos papas éradis, vos paparazzi ». On vous écoute, messieurs.
Hé, hey, l'émission Micro-Standard, c'est sur Radio Nord-Bretagne, et c'est fou, 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 fou !
Radzi, tu m'entends ? Où tu en es avec les rafales de photos d'Ève Brigitte dans le téléphérique ?
Je suis dans le palmier devant le téléphérique depuis 4 heures ce matin. Je viens de terminer mon petit-déj et je suis prêt à bosser. Je suis en situation, je suis en train de couper une feuille de palmier brestois juste à côté du téléphérique.
J'espère que tu ne vas pas te faire remarquer.
Je vois les Brigitte qui montent dans le téléphérique.
Je t'envie d'être sur le terrain. Je me serais mieux débrouillé que toi, Radzi.
Prétentieux, espèce de rat de bureau. Mais tu sais même pas monter aux arbres.
Qu'est-ce que tu veux dire par là, espèce de marsupilami ?
Trêve de plaisanterie. Je cherche plutôt des diffuseurs à mes clichés exceptionnels. Les victimes sont en vue.
Ok, ne rate pas les photos. Moi, il faut que j'appelle Closer, Voici, Franche Dimanche, enfin, tous nos partenaires.
Il y a une horde de fans qui se précipitent dans le téléphérique. Il me secoue le cocotier. Je ne suis pas en position confortable. Mince, mon appareil est tombé en 1000 morceaux. Oh, dommage, car les deux filles sont vraiment trop sexy.
Imbécile, tu ne peux pas faire attention avec un appareil de cette valeur et tout notre boulot foutu. C'est moi qui aurais dû aller sur le terrain. Ce coup-ci, ce sont nos proies qui ont gagné. Mais j'ai appris qu'elles passaient la nuit au Vauban. Tout peut être pas encore perdu. Ce coup-là, c'est moi qui me déplacerai.
Tu as osé me traiter d'imbécile ? Mais regarde-toi un peu avant de parler.
Je viens de garer ma bagnole. C'est chaud pour trouver une place devant le Vauban. Allez, on va casser la baraque avec les belles photos que je vais faire. Allô, Radzi, tu m'entends ?
Oui, attention au matériel. Ne fais pas comme moi dans le téléphérique.
Je suis entré dans le Vauban. Il y a une réception pour les Brigitte. Je vais essayer de me glisser parmi les invités. Je vais me faufiler au niveau du bar. Sans être repéré. En effet, tu as raison, elles sont sexy. Je prends une fuite de champagne à leur insu. Ils ont des bons canapés, je suis aux anges.
N'oublie quand même pas pourquoi tu es là, espèce de pique-assiette.
Les Brigitte montent des escaliers. Je suis en plein dans leur champ de vision. Je me camoufle. J'installe le gros objectif sur l'appareil photo. Je vais mieux bosser que toi. Chouette, la porte de leur chambre est ouverte. Je les devine dans le pénombre. Mince, elles m'ont claqué la porte au nez. Mon objectif a pété. Quelle poisse.
Décidément, nous formons une sacrée équipe tous les deux. Tu peux me faire des reproches alors que tu es aussi très maladroit avec le matos. Nous qui espérions réaliser les top clichés, en sommes finalement rendus à des flops clichés.
Ouais, merci.
Bon, vous savez pas, malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission.
Oh, oh dommage.
Eh ben oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Merci en tout cas à Dominique. Merci d'avoir été présent, fan
merci
de Music Country. Merci Dominique.
Merci Dominique.
Merci Maria aussi pour nous avoir fait découvrir ta passion pour Madonna. Et merci à vous, tous les chroniqueurs. Et vous pouvez vous applaudir aussi, bien évidemment.
Ah oui,
bien. On va gêner.
Et je vous rappelle qu'on va se retrouver le 20 juin pour une émission où vous aussi, chers auditeurs, vous êtes invités. Ça sera les 20 ans de Micro Standard, non, de l'association Standard, pardon, je me trompe. Et ça va se dérouler où, Sylvie, dis-moi ?
À l'auberge de jeunesse de Morlaix, donc les horaires sont encore à préciser, mais vous pourrez trouver plus d'informations sur notre site internet www.stand-art.org.
Et il y aura tous les ateliers qui seront représentés là-bas, la sculpture, la peinture, le théâtre, la radio, j'en ai oublié peut-être quelques-uns.
Ah non, c'est 4, c'est bien.
Et retrouvez-nous sur votre radio préférée début juillet pour écouter cette émission qui sera, je vous le rappelle, enregistrée le 20 juin à l'auberge de jeunesse de Morlaix. Ça sera en début d'après-midi. Merci à vous tous, à la prochaine, merci,
bye
au revoir,
bye.
Au revoir, bye bye.
À bientôt.
Et salut les copains.